France Inter présente Bernard Lavilliers.
Frappé à des portes en fer. Il ne s'ouvre pas.
En tournée dans toute la France en 2011 et à l'Olympia à Paris du 5 au 13 mars.
Plus rester, plus partir, plus rêver, on finit.
Retrouvez Bernard Lavilliers dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.com.
Le 7-9 du week-end, Patricia Martin
sur France Inter.
Demain, je recevrai Luc Ferry à 8h20. Nous parlerons du sens de nos vies en ces temps de total bouleversement. Les rendez-vous avec Bernard Maris, Alain Baraton, Stéphane Rosès et Jean-Marie Colombani restent les mêmes, sans oublier Yvan Levaille, Olivia Gesbert et Laurence Luret.
Le 7-9 du week-end, tous les samedis et dimanches.
À demain.
À partir de 7h.
France Inter.
La différence.
15h04, là-bas si j'y suis, Daniel Mermet sur France Inter.
Oui, là-bas si j'y suis, c'est Jean-Yves qui était sur la route en descendant vers le sud cet après-midi. Et je me suis bidonné pendant trois quarts d'heure. Merci d'avoir repassé l'émission sur Jean-Baptiste Bodule. Bodule, pardon, enfin le T et le D, on n'en est pas très, très sûr parce que il y a toujours beaucoup d'incertitudes sur ce Jean-Baptiste Bodule. Et c'était formidable. Je me suis bidonné pendant trois quarts d'heure. Merci. Allez, à bientôt. Au revoir.
Salut. C'est quoi alors le botulisme? C'est un mot étrange qu'on entend, mais on n'a pas la réponse. J'aime bien les philosophes, c'est pas le problème. Si je prends mon dictionnaire, je déglingue la crèche que les gamins adorent, les tout petits, mes petits-enfants. Donc j'aimerais bien une réponse et je vous souhaite une bonne année et plein de bonnes choses. Ciao.
Salut Daniel. Voilà, je voulais partager avec toi ce non-rire provoqué par cette rediffusion des pensées de Jean-Baptiste Botul que j'avais raté en mars dernier. Et un grand bravo aux intervenants qui ont su donner vie à ce grand philosophe sans sombrer dans le manichéisme. Et être manichéen ici, c'eût été un sophisme. Car si l'on considère que dans le cochon tout est bon et que le botulisme peut être causé, je crois, par des conserves de charcuterie avariées, on aboutirait tout simplement à un conflit métaphysique insoluble. Donc c'était bien vu aussi de finir par une recette de terrine de lapin. Bonne fête à vous. C'était Nicolas de La Montagne, dans le pays de Bray. Bonjour.
Oui, bonjour. C'est drôle, cette émission sur Bernard-Henri Lévy et Botul, parce que Bernard-Henri Lévy est en train de refaire une crise de botulisme. Je m'explique. Dans son bloc-notes du Point daté du 23 décembre, il revient sur les assises internationales sur l'islamisation de l'Europe. Une horreur qui a eu lieu samedi dernier. Alors, que trouve-t-il? Alors je cite, « Ce nouveau rapprochement rouge-brun qui voit les crânes rasés du bloc identitaire fricoter sur le dos des musulmans de France avec un ancien du monde diplo, Bernard Cassen. » Erreur, Bernard-Henri Lévy, il ne s'agit pas de Bernard Cassen, mais de Pierre Cassen. Pierre Cassen, animateur de Riposte laïque, n'a jamais été journaliste au monde diplo, et heureusement. Voilà, donc, Bernard-Henri Lévy continue sur sa lancée de botule en botule.
Merci. Merci Père Noël pour ce merveilleux cadeau de Noël. Notre pompeux cornichon s'entarte lui-même désormais. Il confond l'horrible Pierre Cassen avec Bernard Cassen tout en assimilant rouge, brun et monde diplomatique. C'est une véritable merveille, c'est un véritable cadeau. Et ceci le jour même où nous diffusons une émission avec Botul autour de Botul. Formidable. Merci Père Noël. Toute l'équipe de la base, si j'y suis, vous remercie, remercie. On peut vous remercier aussi au nom de tous les auditeurs de la base, si j'y suis. C'est une pure merveille. Merci à notre pompeux cornichon national. Aujourd'hui, dans la base, si j'y suis, on va faire des cadeaux pour les petits-enfants avec des contes et des histoires et le retour exceptionnel de l'horrible Ugly. Voilà, ceux les fidèles de là-bas, si j'y suis, et d'Adèle, qui se souviennent d'Adèle abjecte et de Daniel morbide, vont être heureux, je pense, quelques instants au moins aujourd'hui, mais certainement pas autant que nous. Quelle belle journée. Je suis à Barcelone, figurez-vous. Il fait un temps magnifique et de là, je vous prépare quelques émissions à venir, quelques reportages à venir. Compte donc aujourd'hui, joyeux Noël évidemment à tous. Réjouissez-vous en cette sainte nuit. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour, c'est Catel et Martial de l'île de la Réunion. Nous sommes actuellement en Inde et plus exactement à Bhopal, où nous avons rencontré Satina Tsarangi. Nous voulions juste t'informer, Daniel, qu'il a été élu l'homme de l'année 2010 par The Week, qui est un important hebdomadaire national indien, pour son engagement depuis 26 ans à combattre le Union Carbine. Pour les AMG qui souhaiteraient avoir de plus en plus d'infos sur Satina Tsarangi et ses actions, vous pouvez podcaster et réécouter l'émission de Daniel du 13-01-2004, mais aussi consulter le site de The Week ou encore le site de bhopal.org, bhopal.org, à ne pas confondre avec bhopal.com, qui est justement le site de Union Carbide, qui, je le rappelle, donc est responsable en 84 de plus de 20 000 morts et 120 000 malades par émanation de méthyl isocyanate. Donc Satina Tsarangi agit pour que justice soit faite à Bhopal et serve de jurisprudence de façon internationale. C'est pourquoi il a été nommé l'homme de l'année en 2010 par The Week. Donc Satina Tsarangi, Man of the Year. Voilà. C'était Catel et Martial en direct de Bhopal. Namasté.
Allô, bonjour Daniel et toute l'équipe. J'appelle pour dire qu'il parle beaucoup du Mediator et que tout le monde a l'air très étonné que ce médicament soit resté sur le marché aussi longtemps. Et que ça me rappelle une émission que vous aviez fait il y a, je crois, un an et demi ou quelque chose comme ça, par rapport au vaccin pour le H1N1. Une émission sur les lobbies du médicament, que ce soit en France ou en Europe. Et j'avais trouvé ça vachement intéressant et je me disais que si vous la rediffusiez, ça expliquerait peut-être beaucoup de choses. Voilà, je ne sais pas si c'est prévu, mais ça serait intéressant.
Oui, bonjour les AMG, bonjour Daniel. J'ai écouté ce matin sur France Inter Mariani, Thierry Mariani. Il est bien, il est très très bien ce Mariani. Alors pour bien montrer qu'il était pour la diversité et le multiculturel, il a précisé qu'il avait fait construire donc une mosquée dans sa région, je crois que c'était dans le sud. Et puis c'est surtout empressé de préciser que la mosquée, on pouvait venir la voir, d'ailleurs on la verrait à peine dans le paysage parce que ça ressemblait énormément à un mât provençal, quelque chose dans ce goût-là. C'était très très drôle. Ils nous font des sketchs désopilants. Donc la mosquée, ok, mais à condition que ça ressemble ou à une maison bretonne ou à un mât provençal. Là, ça devient acceptable, quoi. Sacré Mariani. C'était Frédéric à Amiens.
Ouais, bonjour Daniel, bonjour à tous. Je lis et j'entends que le Mediator aurait coûté à la Sécurité sociale et aux complémentaires plus de 400 millions d'euros en 10 ans, sans calculer l'impact des maladies secondaires. Je serais assez d'avis qu'on lance une pétition et qu'on réclame que le laboratoire Servier rembourse cette note astronomique à la Sécurité sociale qui est finalement notre argent, quoi. Voilà, c'est Michel de Lyon.
J'ai un beau-frère qui est une personne très brillante. Il a fait des études supérieures, a toujours travaillé dans la recherche privée et aujourd'hui, à plus de 50 ans, il dirige une grande équipe de chercheurs. En prenant le petit déjeuner ce matin, on parle de la politique économique actuelle et il m'annonce qu'il est en train de lire un livre très intéressant qui explique que nous sommes allés trop loin dans le libéralisme et qu'il est temps de faire autre chose. Je lui demande qui a écrit ce livre et il me répond que l'auteur en est Jacques Attali. Alors tranquillement, je lui explique que Jacques Attali a, depuis 30 ans, contribué à amener l'économie à la catastrophe en poussant vers un libéralisme exacerbé. Et tranquillement, il me répond, ben oui, mais il change d'avis. Cela prouve qu'il n'est pas si mal que ça, cet homme. Alors j'ai beau lui expliquer qu'on ne pouvait pas faire confiance à un type qui retourne sa veste après avoir contribué à la catastrophe économique que l'on subit et qu'il fait partie d'un propagandiste pour l'économie de marché, mais il n'a pas été convaincu par mes propos. Mon pauvre Daniel, on a encore du boulot sur la planche.
Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, oh mon Dieu.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, de bien belles histoires.
Flight number 2, arriving from...
Monsieur Brindavoine avait 400 maisons. Parfaitement. Monsieur Brindavoine avait 400 maisons et pourtant aucune ne lui donnait entière satisfaction. Il en possédait de toute nature et de toute dimension. L'une était si petite qu'elle tenait dans la main. Le toit s'envolait avec un doigt. La clé était une allumette. Une autre était si grande qu'il y avait des montagnes dans les chambres, des paquebots dans les lavabos, des forêts dans les cabinets. Celle-ci était tellement haute que seule une échelle pouvait y loger, et encore c'était une échelle de pompier. Une autre était tellement lourde qu'elle s'était enfoncée dans la terre jusque chez les Chinois, si nombreux, et qui pourtant n'avait jamais vu ça. Mais il en avait une aussi qui était fort légère, tout en plumes, et si on ouvrait la fenêtre, on pouvait s'envoler. Il avait une maison avec une clé, tirée par un cheval qui marchait au bord d'un canal. Il avait une maison, c'était un violon. Il faisait sécher son linge sur les cordes, et l'archet glissait et ça l'énervait, ce monsieur Brindavoine et ses 400 maisons qui ne lui apportaient aucune satisfaction. Pourtant, on ne peut pas dire que Brindavoine manquait d'imagination. L'une de ses maisons était si large qu'une ligne d'horizon pouvait s'y coucher. Avec les îles, les cocotiers, les nuages en chemise, l'océan déchaîné. Il en avait une, c'était une gare. Des locomotives sous les couvertures vous tenaient compagnie internationale des wagons-lits et des grands express européens vous tenaient par la main. Une autre comportait cinq doigts en laine, et les passants disaient « Oh, cette maison vous va comme un gant !» Il en avait une construite en nostalgie, les murs étaient en miroir, les fenêtres en Arménie, les porte-bagages et les parapluies. Oui. Monsieur Brindavoine avait passé sa vie à courir, à construire, à dessiner, à vendre, à acheter palais, grottes, tentes, gratte-ciel, nids, roulottes, cabanes dans les arbres et château neuf du pape. En réalité, sans le savoir, il avait consacré son existence à rechercher la toute première maison qu'il avait habitée. La toute première, une maison au fond de la mer. Sans ascenseur, mais sans étage, sans fenêtre, mais sans mur, sans cheminée, mais sans toiture. Une mer, dedans, quand on nageait, c'est comme si on volait. Les oiseaux n'ont pas de mémoire, mais la mer le sait. Les oiseaux ne sont que d'anciens poissons, et je m'adresse aussi aux perroquets. Monsieur Brindavoine, donc la mer, c'était donc sa toute première maison. Une mer qui vous berçait, vous balançait, vous roulait, vous suçait. Le lobe de l'oreille, vous parlant tout bas. Et qui vous racontait qu'autrefois, avant d'être la mer, elle était une île, une petite île, une ancienne petite île. Et d'autres histoires encore. Ou bien de la musique, elle faisait de la musique, du saxophone. Et de la batterie. Oui, au fond de la mer, jour et nuit, on entend jouer un batteur de génie. C'est le cœur de la mer, qui change de rythme et de couleurs selon ses émotions. La lettre qui arrive, une chanson à la radio, une colère, un bouquet, un avion, un instant d'hésitation, et l'homme de sa vie dans l'escalier qui lui mordit le cou, et le batteur change de rythme à chaque coup. Et puis l'amour, quand la mer fait l'amour, force 5 sur Gascogne et Cap Finistère. Et lui, au fond de cette maison, Brindavoine, pris entre les feux de l'amour et les grognements du père dans les bras de la mère. Tous, vous m'entendez? Au fond de nos ténèbres, nos moelles et nos vertèbres, nous gardons le goût de ça. La stupéfaction de l'amour. L'infracassable noyau. Quand la vie est imprenable, juste avant le point du jour. Jusqu'au jour où il y eut cette tempête, cyclone sur les Açores, grand fort sur Forti, ébaloté, ballonné, écrasé, aspiré, explosé, expulsé, il a été précipité au fond de la mer, bousculé, étouffé, écrasé. Monsieur Brin d'Avoine s'en va par le fond, les parois se déchirent. Et au fond de la mer, qu'est-ce qu'il y a? Ah ben c'est comme dans une baignoire, il y a une bonde. Et la bonde s'est ouverte, comme une fenêtre ronde ouverte sur le monde. Et l'eau s'en va en tourbillon, il franchit une montagne russe, où il est écrit « Col de l'utérus ». Il traverse un palais secret, une grotte miraculeuse. Sa tête touche le plancher, ses épaules frottent le plafond. Son ventre s'écrase contre les murs. Et finalement, poussé par les éléments, la tête baissée comme un bélier, les yeux fermés et sans papier, ramené à la frontière, à la lumière exorbitante de la vie au grand air, Monsieur Brin d'Avoine est passé par où tout le monde est passé. Il est né. Ce fut une explosion dans sa poitrine et dans ses poumons. C'est un garçon, a dit quelqu'un. Un garçon nommé Brin d'Avoine et qui depuis a eu 400 maisons qui jamais ne lui ont donné entière satisfaction.
Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière.
La chaleur de juillet fait vibrer le ciel au-dessus des avoines. La fermière a fermé les volets, puis avec le panier et le cidre frais à bicyclette à travers pré, elle va porter la collation au moissonneur qui l'attendent à côté des chevaux en sueur à l'ombre des ormes. Elle longe le petit bois, elle pense qu'il y aura de l'orage pour ce soir. C'est les grandes vacances, c'est dans les années 50, dans la ferme, au-dessus du petit Morin, en Seine-et-Marne, en France. Boubou, les poulettes ont 8 et 9 ans. C'est Poulette la plus grande. Ils sont cachés dans le petit bois. Poulette dit que c'est comme une île, que c'est leur île. Personne ne le sait, personne ne vient là. 3 gouttes de rosée dans une toile d'araignée, une fraise, un ressort de sommier, une limace, 2 champignons et des fougères à la saison. Depuis que le Tour de France est passé à La Ferté, Bouboule porte une casquette en papier avec de la réclame pour Gondolo, le biscuit qu'il vous faut. Il a mangé tous les biscuits sans le dire à Poulette, mais elle s'en doute, depuis qu'ils sont petits, Bouboule mange tout le temps. Au contraire, Poulette est une allumette, une future grande bringue sèche comme sa mère. Avec des branches et des fougères, Bouboule et Poulette se sont fait une cabane dans un hêtre au-dessus des noisetiers. Et de là, allongé, il scrute le vaste monde, il voit sans être vu. Un cageot fait la cheminée, un vieux sac sert de rideau, les murs sont en branches, la toiture en fougère, le lit une couverture trouée de la guerre, du pain, du chocolat, des confitures volées, du bonheur en été. Il y a des requins qui passent parfois dans les parages, des bateaux avec des pirates, des pirogues avec des sauvages. Une fois, ils ont entendu des pas et des voix tout bas, des souffles et des branches qui craquaient. Des cris de quelqu'un qu'on étouffe. Et ils ont reconnu la bonne de chez Jarry avec le Marcel de l'autocar. Et voilà qu'un jour de cet été-là, Poulette n'avait plus envie de rien. C'était bien la première fois. Boubou l'avait fabriqué une arbalète pour chasser la panthère noire, une panthère noire qui s'était enfuie du cirque Moreno et semait la frayeur jusqu'à Saint-Cyr-sur-Morin. Mais Poulette ne voulait pas. Bouboule voulait creuser un grand trou avec des branches dessus pour faire un piège à panthère, mais Poulette ne voulait pas. Bouboule voulait profiter qu'il n'y ait personne à la ferme pour aller décrocher le fusil d'Alfred, prendre les cartouches dans le tiroir sous la TSF et en finir avec cette panthère. Mais Poulette ne voulait pas. Ce jour-là, Bouboule voulait, mais Poulette ne voulait pas. Bouboule taillait des flèches. Il s'est arrêté et il a refermé son couteau. Son premier couteau. Un beau couteau que son père lui avait acheté au marché de Jouarre. Il l'a replié et il s'est assis à côté de Poulette. Poulette ne disait rien. Elle faisait des dessins dans la terre avec un bâton. Bouboule regardait son couteau. Il ne disait rien, lui non plus. Et le temps passait. Le temps était une petite araignée qui avançait très lentement sur une brindille. Poulette regardait l'araignée. L'araignée est arrivée au bout de la brindille. Elle s'est arrêtée. Elle voulait s'en retourner, et puis non. Elle s'est jetée dans le vide et Poulette a parlé. Si on s'embrasse très fort, on pourrait mourir. Bouboule a ouvert son couteau. Il l'a essuyé avec son maillot de corps et il a refermé son couteau et il a dit « Je vais retrouver Pierrot aux écrevisses à la rivière, je lui ai promis. » Poulette a répété « Si on s'embrasse très fort, on pourrait mourir. » Bouboule avait envie de rejoindre Pierrot. On peut choper des grenouilles aussi. Il suffit de leur tirer dans l'œil, pile avec la sarbacane. Il s'est levé pour partir. Il cherchait quelque chose à lui dire. « T'es folle, je t'aime pas. » T'es même pas forte, t'es toute maigre. Il tournait en rond. Elle allait pleurer, elle allait partir, tout devenait compliqué. Mais Poulette ne pleurait pas. Elle n'avait pas bougé. Il a rangé son couteau dans sa poche et il s'est assis à côté d'elle. Il aurait pu faire le contraire, mais il est resté. Côte à côte, assis sur un tapis de mousse qu'elle avait mis pour les invités, si des invités un jour venaient. Il n'avait plus envie de s'en aller. Quelqu'un d'autre tuerait la panthère. Pierrot peut-être, mais tant pis. Au loin, on entendait le bruit de la moissonneuse et des voix qui criaient après les chevaux, d'autres qui riaient. La fermière était rentrée, les bouteilles vides dans son panier. Elle préparait les seaux pour traire les vaches. Elle avait rouvert les volets. Elle avait ramassé les légumes au jardin pour la soupe. Allumé le bois dans l'immense cuisinière. Très loin, la cloche d'un clocher. La voix de la mère de Poulette en colère. Le passage de l'autocar Citroën sur la route de Coulommiers. Le soir, il y a eu de l'orage. C'est tout. C'est tout ce qui s'est passé. Je ne sais rien d'autre. Je sais seulement que c'est là, ce jour de cet été-là, près de cette cabane de branches et de fougères, dans ce petit bois, au temps des grandes vacances, du pain et du chocolat, au temps où il y avait des chevaux dans les champs, au temps des paniers et du cidre pour les moissonneurs, pas loin du petit Morin, en Seine-et-Marne, en France. C'est là que Bouboule a perdu son couteau.
Les cheveux de ma sœur, capturés par ma main. Volés pour qu'elle m'embête. Là, faut qu'on se console. Son sourire sous ses larmes. J'y dirai que je l'aime demain. En attendant, Frangine, nos joies creusent des rigoles. Les dubas à la bonbon piqués à ma maman, à la bourse de l'amour, font une fortune d'un rien. Son cahier à chansons chanté de temps en temps, quand je m'en foutais bien, j'avais tout, il est mien. Les soirs de réveillon, on osait s'embrasser, m'en fous du comment. Père Noël, faut voir ce qu'on était beau. Et les dimanches d'ennui, mon père me faisait des jouets. Ouais. Comme on dit par chez nous, j'ai du sang, j'ai d'un lio. C'est du sang, c'est pas de l'eau. Je cours dans l'autre sens que la terre. Je cours et me fatigue, je ne rattrape rien. Et le temps ne me laisse que souvenirs et regrets. Mais je cours. Plus tard, des amitiés qui s'oublient doucement m'ont bousculé la tête. On s'est encanaillé, on fumait en cachette. T'as vu le voyou, le grand? On trichait à l'école, même pendant les dictées. On a dragué les filles, on en a eu quelques-unes qui m'ont appris des trucs. J'aurais jamais cru ça. J'ai su qu'un petit derrière, ça pouvait être une dune. Que si tu mélanges des lèvres, ben t'as le cœur qui bat. On s'est construit le monde avec nos regards neufs. Le lendemain, un autre venait le remplacer. On avait tout compris, de la poule ou de l'œuf. Mes frères de petits grands, vous m'avez dessiné. Et je cours dans l'autre sens que la terre. Je cours et me fatigue, je ne rattrape rien. Et le temps ne me laisse que souvenirs et regrets. Mais je cours, et vivement demain.
Au pays de l'alphabet, où les lettres sont des êtres, Monsieur C devenait minuscule. Plus personne ne voulait de lui. Toujours occupé à l'ABC, son voisin, Monsieur D, le trouvait ridicule. Il se voyait très rarement, à part dans les enterrements, quand quelqu'un était décédé. De l'autre côté du palier vivait la belle Madame B. Sans cesse en silence, C rêvait de ses boucles, ses pleins et ses déliés. Même en majuscule, elle n'était pas trop ronde comme Madame O ou trop frêle comme Madame L. Il rêvait d'elle, surtout la nuit, avec des bottes D, Q, I, R, sur un cheval qui N, I. Mais C était trop coincé. Il voulut lui envoyer une lettre, mais il ne sut jamais laquelle. Un soir, qu'il rêvait encore dans la rue des conjugaisons, il la vit passer, enlacée au bras de A. Eh oui, lui dit une voix. Béaba, béaba, tout le monde sait ça. Ils sont attachés depuis toujours. Il n'y a que toi pour ignorer ça, présomptueux petit C. C'était bien sûr la voix de D. Le cœur brisé, Monsieur C se mit à en vouloir au porte-plume qui l'avait engendré. Il traînait dans les marges, il voulait s'abréger. Mais, un soir dans un bar, il rencontre le K. Un ami à lui, qui le remplace parfois dans les mots des langues lointaines où les Kanaks vont en kayak et les Kakis boivent le kawa. « Mon cher ami, dit Monsieur K, allez donc voir Monsieur E. Il pourra vous aider. Il a tellement de succès dans les dictionnaires de français. » C alla voir E, célèbre pour ses casquettes aiguës et ses bérets graves. Mais on lui dit qu'il était dans l'eau, on lui dit qu'il était muet, et Monsieur C s'en retourna. Chemin faisant, il croise Y, le philosophe. « Pourriez-vous m'aider ?» demande C. « Circule, virgule, ou je t'apostrophe !» lui dit le savant courroucé. Et C va par les rues de plus en plus courbées. En passant, il donne machinalement un coup de poing sur un I qui pourtant ne lui avait absolument rien dit. « C'est assez. C'est assez. J'ai besoin de ma R.E. » Mais un soir, alors qu'il errait dans les forêts de l'alphabet, en passant près d'une rivière, il entend chanter un air. « M, M, il faut aimer. M, M, tu seras aimé. » En écartant un peu les branches, Monsieur C voit Mademoiselle U, qui dans l'eau nage toute nue. Elle a toute ôté, tant L-H-O. C fut frappé par la beauté du. « C'est elle !» se dit-il, « c'est elle !» Il court se mettre en majuscule, il chausse sa plus belle cédille, « c'est elle, c'est elle !» Il croit ses amis, « L.O. » lui dit Hervé, « tu es plein d'énergie !»« L.O. » lui dit L.N. qui fait ses H.A. car elle a K.C. sa Q.I.R.A.T. « Tu es tout énervé !» Mais sans écouter, il court et enfin il s'arrête, tout boule R.C.E. Il tombe au pied de la lettre. « Depuis longtemps, je vous cherchais. J'ai traversé tout l'alphabet et c'était bien monotone. Ah, je vous aime, jolie voyelle. Nous sommes faits sur le même modèle pour quelqu'un qui s'est dessiné. » 13 M-U-U ne sait plus où se mettre. Je reçois tellement de lettres. Elle était employée dans un ordinateur. Le soir même, à 5 heures tapantes, il se retrouvait derrière l'imprimante. Et voilà qu'à son tour, juste avant le premier baiser, U entendit l'air enchanté. M, M, il faut aimer. M, M, tu seras aimé. Alors, comme une parenthèse, le cœur du s'ouvre assez pour laisser passer C. Bien vite, le bruit se répandit et chacun sortit de sa boîte aux lettres afin de composer des mots et des phrases au hasard qui montèrent dans un autocar pour aller à la noce qui eut lieu dans l'Aisne. La petite U était très belle, avec son chapeau circonflexe et sa robe en calligraphie. Faute d'orthographe et photographe, tout le monde était invité. À la sortie de la mairie, on donna des coups de klaxon qui faisaient des points d'exclamation. Une petite virgule se ferma, une grosse parenthèse sur les doigts, mais bien vite on la consola. « Ouvrez les guillemets !» dit le A. Alors, la fête commença. Les 10 chiffres invités arrivèrent en premier, à part le numéro 3 qui s'était perdu dans les bois. Chacun sur son 31 s'était mis en 4. On put voir le numéro 6, qui mangeait beaucoup de saucisses. Il y avait les frères 7, 8, 9, tout contents dans leurs habits neufs. Il y avait des caractères venus des 4 coins de la terre, des Russes, des Arabes, des Chinois qu'on ne comprenait vraiment pas, venus d'Éthiopie, d'Arménie, hiéroglyphes et graffitis dans des robes de gala. Le cousin W, venu d'Angleterre, mangea du H.I. à la petite Q.R. L'inconnu Monsieur X fit une apparition en jetant sur la table de façon regrettable quelques mystérieux points d'interrogation. Il y avait un tiret qui avait bu un coup de trop. Il voyait double et savait pas s'il parlait à un point ou à un tréma. Et pour faire rigoler la noce, tonton Y faisait le Z. Enfin, pour mettre un point final à la fête, il y eut un grand bal, et toutes les lettres dansèrent au son d'un vieil abécédaire. Les mariés, pour leur lune de miel, partirent 8 jours en italique. Puis, à Paris, ils logèrent chez le G, pas très loin de la tour Eiffel, dans un petit livre en carton. Pour ne pas faire d'indiscrétion, arrêtons ici cette histoire avec des points de suspension. C'était l'histoire de Monsieur C, qui épousa Mademoiselle U. La dernière fois que je les ai vus, ils attendaient un petit cul.
Il y a un joli garçon qui me trotte dans la tête. Je sais pas trop ce qui lui casse la tête, mais c'est pas drôle sur sa planète. J'oserais bien me couler dans ses bras, sauf qu'on dirait un ange, ce qui fait que je ne peux pas. D'ailleurs, il faudrait pas que je l'aime, mais j'ai le cœur qui est d'un sans gêne. Y'a un joli garçon qui me trotte dans la tête. Il aime pas jouer pendant les fêtes. On est sûrement des marionnettes. Vu de là-haut sur sa planète, quand arrive le matin, l'odeur du café chaud, quand on vole tous comme des oiseaux. Je ne voudrais pas qu'il y ait de faim. Ça ne me fait pas tellement rire. Je vois bien que je l'aime plus qu'un petit peu. Ça, je devrais pas le dire, car j'ai des charmes amoureux. Il y a un joli garçon qui me trotte dans la tête. Pour moi, j'arrête là. Hein.
Alors, pour, je regarde les sondages immédiats que nous avons les moyens de faire, vous le savez, 47% des auditeurs de la basse, si j'y suis, pensent que nous sommes en train d'entendre le cabinet d'un dentiste. Et 38% pensent qu'il s'agit d'un tueur en série en pleine action. Et le reste des auditeurs de la basse, si j'y suis, sont sans opinion. Ce genre de petit jeu aussi amusé il y a une vingtaine d'années. Je faisais une série avec Adèle, qui est une réalisatrice bien aimée et très talentueuse de France Inter. Et on faisait, il y a exactement 20 ans, une émission qui s'appelait « Chair de poule ». Et tous les après-midi, il s'agissait de vous faire peur. Et voilà. Et on y était arrivé pas si mal que ça avec une série qui s'appelait « Ugly ». Ugly, c'était un personnage qui revenait toutes les semaines à peu près quand j'avais réussi à finir d'écrire l'histoire. Et voilà, ça a été une petite série à l'intérieur d'une série d'histoires épouvantables, horribles, qui donnaient la chair de poule tous les jours. Et il y avait ce personnage qui s'appelait Ugly. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Et on a refait une version d'un des chapitres de Ugly qu'on va entendre maintenant, interprété par Adèle. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
Je suis toute seule. J'ai 13 ans et les vers de terre recouvrent tout, même les fenêtres. Je les sens qui grouillent sur mes jambes, partout. Ils vont me remplir la bouche et me boucher les yeux. Comme ça, ça fera comme de la nuit. À Singapour, il suffit de respirer pour être heureux. On va partir là-bas, Ugly, tu verras. Où l'eau jouera du piano et tu feras danser le petit rat. Pleure pas, petit frère. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, oh mon Dieu, elle dit maman. Je l'entends qui n'arrête pas de répéter ça jour et nuit. Dans le noir près de moi, Ugly a pris le cadre avec la photo de notre chère mamie pour lui faire des bisous. La photo est pleine de verre et avec ses bisous, Ugly en avale plein. Au moins comme ça, il mange un peu, lui qui est si difficile. Ça ferait plaisir à maman si elle comprenait. Mais je l'entends par terre en train de lécher son vomi. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Quand j'y repense, c'était bien regrettable que mamie de Villemomble n'était pas là pour ce joyeux Noël, surtout la bûche au chocolat, elle qui l'aimait tant. Mais il fallait bien l'enterrer puisqu'elle était morte. Et il fallait aussi réparer la maison que le feu avait ravagée. Alors, papa et maman eut la bonne idée que notre cher Ugly et moi en irait chez Tonton Starsky pour Noël à Créteil-Val-de-Marne. Tonton et Tata Starsky, ils ne peuvent pas avoir d'enfants, ce qui est bien malheureux au sein d'un jeune foyer moderne. Comme ça, il a dit papa, ils connaîtront un peu quelque part la belle joie d'un Noël en famille. Mais Ugly était triste de partir à cause de Houlot qui ne savait pas quel était son amour. Il ne pouvait pas la voir à la fenêtre et lui montrer mon beau poisson rouge qu'il avait pêché pour elle avec la fourchette à fondue savoyarde. Houlot, Houlot. Il répétait doucement Ugly dans la voiture avec ses yeux de quand il est malheureux. Ça coulait sur ma main qu'il tenait dans sa main, mais j'avais pas envie de l'enlever malgré son odeur de vieille viande. Houlot, Houlot. Pour le consoler, je lui ai dit que chez Tonton Starsky, on verra le Père Noël. Et c'était vrai! C'est même moi qui l'ai vu la première dans la sainte nuit de Noël. Même qu'il dormait, il ronflait pas, il dormait sur le canapé de Tata, près du beau sapin, avec sa capuche rouge rabattue sur la tête. Si bien qu'on voyait pas son visage jovial, mais juste un bout de sa barbe blanche avec l'élastique. C'était joli! Vous vous demandez comment je l'ai vu comme ça en pleine nuit que tout le monde dormait? C'est à cause du gros bruit qui m'a réveillée. Boum ! Alors, je me suis assise dans mon lit dans le noir et j'ai réalisé dans ma tête que c'était la nuit de Noël. Et j'ai eu envie très fort d'aller voir s'il y avait déjà quelque chose dans mes baskets. J'ai eu envie très très fort. Je me suis levée, j'ai marché dans le couloir sans allumer tout doucement avec seulement le bruit de mon sang dans mon cou. Et soudain, dans le salon, j'ai vu le Père Noël qui dormait, ce qui n'est pas courant. Bonjour. J'ai entendu une voix derrière moi. Bonjour. C'était une boîte en carton en or. Je m'appelle Magica. Je m'appelle Magica et je suis ton amie. J'étais contente. Quelle ravissante poupée. Je m'appelle Magica, je m'appelle Magica, je m'appelle Magica.
Chut, j'ai dit. Il y a le Père Noël qui dort, il faut pas faire de bruit.
Magica me souriait.
Écoutez, j'ai dit. Parce qu'au début, je lui disais vous. On va attendre qu'il se réveille et on lui demandera si c'est vrai qu'il n'existe pas. C'est ce qu'on a fait. On s'est assise dans le fauteuil de tonton pour le foutre à la télé et on a admiré les lumières clignotantes et féeriques dans le sapin. C'était joli. Et alors, j'ai vu tous ces bouts de viande crue. C'était comme plein de petits tas de viande hachée. Il y en avait partout sur le sapin, sur les guirlandes, sur le mur. Et moi, j'aime pas la viande. Tata Starsky veut toujours m'en faire manger à cause du sang qui fortifie. Mais alors là, du sang, j'étais servie. Il y en avait jusqu'au plafond, jusque dans la chaussure à Ugly. Oui, je sais bien, Ugly n'a pas besoin de chaussures parce qu'il n'a pas de jambes. Mais c'était Noël. Et pourquoi ne pas croire au miracle, comme dit papa, lorsque l'amour et la science sont au rendez-vous? En attendant, tata et tonton n'allaient pas être contents en voyant leur belle maison pleine de sang et de viande. J'avais peur d'avoir vu tout ça alors que tonton et tata dormaient et Ugly aussi qui était attaché dans la chaufferie. Et qu'est-ce qu'il va dire le Père Noël en se réveillant quand il verra tout ce chantier et que j'ai pris Magica? On est retourné dans ma chambre toutes les deux sans bruit. On a essayé de dormir, mais moi les bouts de viande ça m'empêchait. Alors j'ai parlé avec Magica. Je lui ai dit que j'avais un papa, une maman et un frère. Et qu'est-ce qu'il va lui apporter le Père Noël à ton frère? Elle a demandé Magica la poupée. Oh, j'avais même pas remarqué s'il y avait un cadeau dans la chaussure de Ugly. Ça alors? Peut-être que tonton a oublié de dire au Père Noël que Ugly est là. C'est que tonton, il est très occupé comme travail. Même des fois la nuit, il part en vitesse quand la voiture arrive avec ses freins et sa grosse lumière bleue qui fait tourner les volets sur le plafond parce qu'il faut que tonton se dépêche d'aller tuer les terroristes. Oui, j'ai dit à Magica, car tonton Starsky, il est flic de police même s'il n'a pas de képi. Tonton, c'est un flic qui s'est déguisé en n'importe qui. Mes copines, elles croient que ça se peut pas, mais moi, j'ai vu son 357 Magnum. Comment tu l'as vu? Elle dit Magica. Parce qu'hier, Ugly, il a voulu me tuer. Je me rendais au water quand Ugly a surgi avec un gros revolver. Je lui ai dit qu'il me laisse passer car c'était pressé. Si jamais tu me tues, je vais te cafeter et tu iras pas à la télé dans l'émission de Star Academy. Ugly faisait sa bave avec des grosses bulles et moi j'en menais pas large. Mais alors, Tata Starsky est arrivé derrière lui sans bruit. Moi je la voyais, mais lui non, tellement il allait me tuer. Tata lui a sauté dessus, mais boum! La balle a fait un gros trou brûlé dans la porte des water où se trouvait tonton Starsky avec l'amant de Marguerite Duras. Qu'est-ce qui se passe? Nom de Dieu, de nom de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il a fait tonton en remettant son pantalon d'une main en tirant la chasse d'eau de l'autre. Que se passe-t-il? Tata hurlait par terre, toute blanche. Calme-toi, Françoise, nom de Dieu, il disait tonton. Il a enlevé chaque doigt de Tata qui serrait le revolver et l'a rangé dans sa poche sous son bras avec les petites bretelles en cuir. Ugly, lui, il regardait un clou dans le mur. Tonton, le soir à table, il a dit à Ugly, « T'es grand maintenant, je vais te parler, mon grand bonhomme. Et toi, file te coucher, il m'a dit nom de Dieu, parce que j'avais recraché toute la bonne viande dans mon assiette. Mais je suis même pas allée me coucher. J'ai écouté derrière la porte de la cuisine. Tonton, il a expliqué à Ugly qu'il y a des messieurs très méchants qui tuent des gentilles grand-mères en leur renfonçant des serpillères dans la bouche, comme supposons Mamie de Villemomble. Bon d'accord, elle est déjà morte, mais supposons. Alors, il faut bien que quelqu'un les attrape avec un revolver, les assassins. Et voilà, c'est Tonton Skarski qui fait ça. C'est pour ça qu'il faut jamais fouiller dans les affaires de Tonton. Il faut promettre, sinon ça fera de la peine au petit Jésus et Papa Noël n'apportera pas de joujou à Ugly. Et il faut arrêter de faire tout le temps des bêtises, comme la fois que tu avais fait éclater la tête du petit chien Rocky en le lançant sur le mur du garage et que tu lui as enlevé les yeux avec le casse-noisette. C'était pas gentil. Ça a beaucoup fait pleurer Tata, c'est pardonné, mais quand même. Mais alors, il a dit Tonton, mais alors, si Ugly est très gentil, mais alors, très, très gentil. Eh ben, le Père Noël apportera un beau revolver comme Tonton. Et comme ça, si une nuit, mettons que Tonton serait parti et que, mettons, il y aurait des voleurs dans la maison pour tuer Tata et ta petite sœur, eh ben, c'est Ugly avec son revolver qui chassera les méchants voleurs. D'accord? Tu me promets. D'accord, hein? Et maintenant, va te coucher, embrasse Tata. Tonton va venir t'attacher avec les chaînes dans la chaufferie. Et voilà tout ce que j'ai raconté à Magica. On avait parlé tellement que je ne me suis même pas aperçue que le téléphone sonnait et que personne ne le décrochait. Le téléphone faisait son bruit de quand c'est les copains de police de Tonton qui l'appellent pour venir le chercher avec la lumière bleue. Le téléphone s'est enfin arrêté. Il y avait plein de silence. Je serrai très fort ma nouvelle amie. Ça a été long. Et la voiture est arrivée avec ses freins. Les types ont sonné et ont cogné sur la porte. « Police, ouvrez !» Ils rigolaient. Mais après, ils rigolaient plus. Ils sont entrés dans la maison. Il y en a un qui a dit un gros mot et l'autre qui l'a répété. Après ça, il faisait plus de bruit. Il marchait juste un peu. Moi, je faisais semblant de dormir, mais j'ai entendu quand ils ont tourné la poignée de ma chambre. J'ai fermé mes yeux fort. Il y a un monsieur flic qui a dit qu'il allait emmener la petite. Il faut pas qu'elle voie ça. Réveille-toi, il a dit l'autre flic. Réveille-toi, mon petit. Il faisait une voix gentille tout bas, qui sentait le whisky comme maman. Il m'a dit qu'on allait partir tous les deux. Il a rien dit pour Magica, mais il m'a dit surtout de pas regarder quand on allait traverser le séjour. J'aurais bien voulu, mais j'ai quand même regardé. Il y avait plein d'autres flics dans le séjour autour du Père Noël qui dormait. Sauf qu'il dormait pas. Et que c'était pas le Père Noël. C'était Tonton Starsky. Heureusement qu'il a une moustache, sinon je l'aurais pas reconnu, mon tonton. Toute sa figure, c'était comme du steak tartare avec deux gros oignons blancs qui pendaient. Et c'était ses yeux. Tata riait. Elle sortait sa grosse langue blanche et ses yeux tournaient dans tous les sens. Deux flics la tenaient pour qu'elle arrête de gigoter comme ça. Mais vite, le monsieur m'a emmenée et on est monté dans la voiture et personne n'a rien dit pour Magica. La voiture roulait et le bonhomme parlait tout seul. Nom de Dieu, nom de Dieu, mais comment ça a pu arriver? Moi, je le savais, mais je lui ai pas dit. Je savais bien que Ugly ne dormait pas dans la chaufferie. Je savais bien qu'il avait cassé ses chaînes. Je savais bien qu'il avait rampé dans le noir pour voir son cadeau de Noël dans son petit soulier et qu'il a trouvé son joli revolver et qu'il est allé tout de suite voir si c'était vraiment comme celui de Tonton qui était caché dans la cachette secrète et que c'était exactement le même. Et il était content, Ugly, juste au moment où il a entendu un bruit dans la maison. C'était des terroristes qui venaient tuer tout le monde dans cette douce nuit, s'est dit. Alors, il a visé exactement comme lui avait fait voir son gentil tonton. Sauf que c'était le revolver de tonton et que c'était tonton qu'il visait. Oui, c'était tonton qui avait eu la bonne idée de la rouge aux plantes avec la barbe blanche, tout déguisé pour nous faire une surprise sympa, lui qui n'avait pas d'enfant. Oui, oui, moi je sais tout ça. C'est Magica qui m'a tout raconté. Elle a tout vu de sa boîte en carton en or. Le bonhomme dans la voiture s'est mis à se taire, mais je lui ai quand même souhaité joyeux Noël.
C'était de très belles histoires écrites par Daniel Mermet qui seront prochainement publiées. Merci et coup de chapeau à Adèle qui réalise toujours génialement l'émission. Partir avec sur France Inter. Notez que toutes les informations sont sur le site de France Inter à la rubrique Là-bas, si j'y suis et sur là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Patrick Henry et Basile Bocquer, une émission réalisée par Coy Nguyen et Franck Aderer. Assisté d'Agnès Lebotte, chef du répondeur Marina Touyez. Le numéro du répondeur de Là-bas, si j'y suis, 01 56 40 37 37. Dans un instant, Carrefour de l'Odéon avec Frédéric L'Odéon. Merci d'écouter France Inter. Bon après-midi, les 16h. Informations avec Sarah Guibaudot.
L'alerte orange à la neige et au verglas s'étend désormais de la Lorraine à l'Allier en passant par la Bourgogne et la Haute-Marne. Les Pyrénées-Orientales vont être balayées par un vent violent, des rafales de tramontane annoncées jusqu'à 120 ou 140 km/h et puis vigilance aux crues dans l'Indre et la Nièvre. Conséquence, une dizaine de milliers de foyers sans électricité, notamment en Dordogne et dans l'Est. Dans l'Est et le Nord, certaines routes secondaires sont fermées ou impraticables. Le gel et le manque de liquide de dégivrage ont entraîné l'annulation de la moitié des vols cet après-midi sur l'aéroport de Roissy. Beaucoup de retard à Orly. Pour Thierry Mariani, le secrétaire d'État au transport, pas la peine de s'en cacher. Il est probable que des passagers passent la nuit de Noël à Roissy. Le corps d'une jeune femme disparue il y a plus d'un an dans le Gard a été retrouvé et identifié. Le corps découvert dimanche dans le Rhône près de Port-Saint-Louis est bien celui de Coralie Moussu. La justice ne privilégie pas la piste criminelle. La justice va pouvoir poursuivre ses investigations pour identifier le sous-marin en cause dans le naufrage du Bugalet Braise. Décision de la Cour de cassation révélée ce matin par Libération. La piste du sous-marin est désormais privilégiée dans la disparition du chalutier breton et de ses 5 marins en janvier 2004. L'OTAN et la marine britannique effectuaient alors des exercices dans la zone de pêche. Pas d'embellie sur le front du chômage. Nouvelle hausse en novembre, plus 0,8% qui efface la baisse d'octobre. Cela représente plus de 21 000 chômeurs de plus dans la catégorie A, ceux qui n'ont pas du tout travaillé dans le mois. Si on ajoute ceux qui ont travaillé quelques heures, la France est passée au-dessus des 4 millions de chômeurs. C'est peut-être l'occasion que vous attendiez pour changer d'opérateur de téléphone ou d'internet. La hausse de la TVA sur les box et sur certains forfaits de téléphone portable va pousser les opérateurs à augmenter certains tarifs. Et ça, c'est un motif de résiliation sans frais, quelle que soit votre durée d'engagement, rappellent les associations de consommateurs. Orange et SFR ont déjà décidé de prévenir leurs abonnés concernés par courrier. Pas de compromis à l'ordre du jour, selon le Nigeria, qui accueille en ce moment un sommet consacré à la crise en Côte d'Ivoire. 15 chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des pays d'Afrique de l'Ouest réunis à Abuja. De nouvelles sanctions pourraient être décidées. Laurent Gbagbo peut encore avoir une sortie honorable, a estimé ce matin la chef de la diplomatie française. Mais pour Michel Alliomari, plus le temps passe, plus cette perspective s'éloigne. Des enfants qui vont découvrir la neige. 84 petits Haïtiens ont atterri ce matin à Paris. C'était le second vol cette semaine destiné à ramener des enfants en attente d'adoption depuis le tremblement de terre du 12 janvier. Mais 6 d'entre eux n'ont pas pu prendre l'avion, dossier incomplet. Le gouvernement français promet de tout faire pour débloquer la situation dans les prochains jours. Vous écoutez France Inter, il est 16h passé de 3 minutes, Carrefour de l'Odéon, toujours présent et en direct. Bonjour Frédéric L'Odéon.
Et bonjour Sarah, et bonne soirée tout à l'heure, j'espère. Carrefour de l'Odéon.
Bonjour à tous. Oui, des difficultés, les transports, les intempéries, toutes sortes de choses, des drames dans le monde. Mais on essaye de se réjouir aujourd'hui quand même. Je vous souhaite d'avoir un moment de détente en famille ou en tout cas avec quelques proches sympathiques dans quelques heures. Pour commencer, donner l'exemple, voici la réjouissance tirée de la 4e Sud pour orchestre de quelqu'un qui avait connu bien des soucis, des deuils personnels, des enfants disparus. Il était issu d'une famille qui a duré très très peu. Ses parents, ben, il les a eus jusqu'à l'âge de 10 ans seulement. Il était orphelin à l'âge de 10 ans. Jean-Sébastien Bach a résisté à tout jusqu'à un certain point et il donne, quand il peut, l'exemple de l'optimisme. La réjouissance tirée de la 4e suite pour orchestre de Jean-Sébastien Bach par l'orchestre, je vais le dire en anglais, Of the Edge of Enlightenment, donc du siècle des Lumières, dirigé par Franz Brüggen. Et puisqu'on peut être coincé ces jours-ci, on espère que ce soit évidemment dans un endroit chaud, que ce sera un endroit protégé, eh bien on peut peut-être lire Diapason, la nouvelle livraison. Et dans ce diapason, il y a les opéras de Mozart, leurs histoires, les personnages, les 22 opéras en CD et en DVD, les musts, comme c'est écrit, c'est-à-dire les meilleures versions, bien sûr, des interviews, comme toujours, des portraits, des chroniques, et puis la hi-fi, la haute fidélité, détaillée. Il y a même aussi la musique et puis la descendance, c'est-à-dire les musiciens et leurs descendants, que sont-ils devenus, les enfants des grands artistes, où sont-ils éventuellement, et les instruments aussi sont montrés, critiqués, le coin du collectionneur, 200 compacts critiqués par Diapason, donc il y a toujours des disques, je le répète à chaque fois, et ça vaut la peine d'être redit parce que quelquefois on entend des bruits un peu pessimistes. Voici par exemple quelque chose de superbe et très attendu, des disques de Radulupu, le fameux pianiste roumain, et là on peut entendre tous ses enregistrements pour piano seul, et c'est un grand moment. C'est publié chez Decca de manière un tout petit peu sobre ou trop sobre, des pochettes blanches tout simplement dans un coffret avec le portrait du maître, un portrait assez ancien quand même. C'est un pianiste unique, attendu chaque fois qu'il paraît, le peu de fois où il paraît, on va dire plutôt. Le voici dans la 5e pièce des Kreisleriana de Robert Schumann.